Dr. Douglas Winnell. Une histoire à propos de deux esprits. Vous savez, frères et sœurs, le monde comprend, ou du moins reconnaît, que le sabbat est un temps de repos, un jour de repos. Mais le sabbat est plus qu'un temps pour dormir. C'est un temps pour faire une pause, une chose difficile dans notre monde actuel, où la plupart des gens sont soumis à un rythme de vie effréné. Oui, c'est un temps pour prendre une pause et pour réfléchir, un temps pour se concentrer sur les grandes questions de la vie. Pourtant, ce n'est pas ce que beaucoup de gens feront aujourd'hui, parce que nous sommes tous si occupés. On va courir de ci, de là. Mais quant à s'arrêter pour réfléchir au but de la vie, ou à la raison pour laquelle nous sommes ici, ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens feront, surtout ceux qui sont dans le monde. Or, c'est précisément ce que je veux faire aujourd'hui, me concentrer sur certaines des grandes questions de la vie. Quand je fréquentais l'université, je ne m'intéressais pas au but de la vie. Je m'intéressais plus aux filles. Je m'intéressais à bien des choses. Mais quant à savoir pourquoi nous sommes ici, pourquoi le monde est tel qu'il est, cela ne figurait pas sur ma liste de priorités. Ce sont pourtant les choses sur lesquelles nous devrions réfléchir, surtout le jour du sabbat. Pourquoi notre monde est-il dans un tel état chaotique? Les nouvelles quotidiennes vous informent de ce qui se passe, et vous vous dites alors, c'est fou, complètement fou, tout ce qui se passe aujourd'hui. L'augmentation de la violence, les guerres, la corruption, les épidémies, toutes ces choses. Dans le World Ahead, M. Weston a fait des commentaires au sujet de ces problèmes qui ne cessent de s'aggraver. C'est intéressant. Il a dit cela cette semaine, alors même que je recevais un courriel du président d'une université que j'avais fréquentée, courriel où ce dernier faisait des remarques très similaires alors qu'il venait de préparer un discours pour la remise des diplômes dans son institution. Il y mentionnait notamment qu'il y a 20 ans, lorsque lui-même et ses collègues avaient obtenu leur diplôme de médecine, ils étaient tous bien déterminés à s'attaquer aux problèmes du monde et à leur apporter des solutions. On était idéaliste à l'époque. J'ai eu l'occasion de revoir cet homme par la suite, un homme très aimable et sincère, qui m'a confié que, de nos jours, des décennies plus tard, les problèmes sont même plus importants qu'il y a 20 ans, quand il a obtenu son diplôme. Mais pourquoi ces problèmes continuent-ils de croître en intensité et de se multiplier? C'est de plus en plus frustrant pour tout le monde. Pourquoi notre nation, les États-Unis, comme d'ailleurs d'autres nations occidentales, semblent-elles s'effondrer? Oui, pourquoi? Pourquoi donnons-nous l'impression de nous désagréger? Voyez ces manifestations violentes, ces conflits raciaux, ces revendications, ou ces désirs de démanteler la police, ces victimes de toxicomanie, ces fusillades multiples. Je suis tombé récemment sur une étude réalisée par l'Université chrétienne de l'Arizona, une étude que je voudrais maintenant brièvement partager avec vous. Elle s'intitule « Les chrétiens américains redéfinissent la foi ». Ces adeptes créent de nouvelles visions du monde vaguement liées à l'enseignement biblique. Je répète, vaguement liées à l'enseignement biblique. Voici quelques-uns des résultats de cette étude. 60% de ces évangéliques ne lisent pas la Bible quotidiennement. Cependant, ils se déclarent évangéliques. Ils sont passionnés de religion, une religion supposément chrétienne. Pourtant, 60% ne lisent pas la Bible quotidiennement, et 52% rejettent le concept de vérité morale absolue, l'idée que la notion de bien ou de mal n'est pas fondée. Par ailleurs, 60% des croyances protestantes contredisent la Bible. Je répète, 60% des croyances protestantes contredisent la Bible. Ainsi, la vérité et la moralité sont aujourd'hui relatives pour beaucoup de protestants. Ils croient aussi que la vie n'a pas vraiment de but. Tout au plus croiront-ils au concept d'aller au ciel. Mais, cela mis à part, la vie n'aurait pas vraiment de but. Selon eux, on ne peut pas vraiment connaître le but de la vie. Pour de nombreux catholiques, le sexe en dehors du mariage est acceptable. Ce n'est pas moi qui le dis. Cela ressort de cette étude. Beaucoup de catholiques croient également que mentir, se livrer à des excès de vitesse et ne pas rembourser un prêt, c'est acceptable. Que se passe-t-il dans notre pays? Que se passe-t-il dans nos nations? Que se passe-t-il dans le monde? Pourquoi ces choses se produisent-elles? Pourquoi tant de gens ont-ils des problèmes? Oui, pourquoi tant de gens, même ceux qui prétendent être chrétiens, ont-ils tant de problèmes? Je veux dans ce sermon aborder certains de ces points. Alors que beaucoup sont trop occupés pour penser à ces changements dramatiques et y réfléchir en profondeur, ces changements affectent votre vie. Ils affectent ma vie et ils vont affecter la vie de vos enfants qui grandissent, car ils grandissent dans un monde très différent de ce que nous avons connu jadis. Vous savez, quand les gens pensent à ces grandes questions, ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse à la raison pour laquelle ces choses se produisent. Si vous consultez les médias et écoutez les nouvelles, vous serez informé de ce qui s'est produit. Ils vous rapporteront les événements et spéculeront sur les raisons de ces événements. Mais ils n'auront aucune idée de la tournure qu'ils prendront. Ils ne le savent tout simplement pas. J'ai été abonné pendant un certain nombre d'années à des magazines d'information comme US News and World Report et d'autres publications de ce genre. Ils vont décrire une situation, mais ils ne seront pas à même de l'expliquer, et ils ne pourront pas vous offrir de solution. Ils ne feront que rapporter les nouvelles. Les gouvernements vont promulguer davantage de lois. Ils vont limoger les anciens dirigeants et en établir de nouveaux, comme si cela pouvait résoudre les problèmes. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Non, ce ne sera pas le cas. Ça n'a jamais fonctionné. Beaucoup d'églises prônent de recourir à la prière. Priez pour la paix, priez pour ceci, priez pour cela. Et si vous voulez vraiment vous impliquer à fond, devenez un combattant dans la lutte pour la justice sociale. Voilà qui permettra d'améliorer le monde. Mais tout cela est peine perdue. Le fait est que ces problèmes demeurent. Ce sur quoi je veux me concentrer aujourd'hui, c'est qu'il y a de vraies réponses aux grandes questions de la vie. Oui, il y a vraiment des réponses aux questions de la vie, et je me propose aujourd'hui d'expliquer pourquoi le monde est comme il est. D'ailleurs, les solutions aux problèmes qui nous confrontent aujourd'hui seront pour vous une bonne occasion de vous impliquer. En effet, les solutions aux grandes questions de la vie impliquent des opportunités très spéciales qui vous ont été données par Dieu, des opportunités que le monde n'a pas reçues. La raison pour laquelle le monde n'a pas de réponse aux grandes questions de la vie est qu'il en a rejeté la source, et cette source est la Bible. Oui, nous avons rejeté cette source, et cette source est la Bible. Je vais maintenant faire une déclaration que je vous prie d'inscrire dans vos notes. La voici. La Bible contient des révélations qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Je répète, la Bible contient des révélations qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Lorsque vous rejetez la Bible et que vous ne l'étudiez pas, vous ne pourrez trouver les réponses aux grandes questions de la vie. Tournons-nous vers Proverbes chapitre 1 au verset 7. Nous allons commencer à découvrir pourquoi le monde n'a pas les réponses aux grandes questions de la vie et pourquoi le monde a les problèmes qu'il a. Dans ce verset, Salomon écrit, Proverbes 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » La Bible du Semeur dit, quant à elle, « C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. » Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Nous ne nous y reporterons pas, mais Romains chapitre 1, versets 18 à 22 dit pareillement que lorsque les êtres humains ont rejeté Dieu, ils sont devenus des insensés. Oui, ils sont devenus des insensés lorsqu'ils ont rejeté Dieu et sa parole. Proverbes chapitre 9, verset 10 dit la même chose, mais en des termes légèrement différents. Ce sont là des choses importantes à comprendre. Ce sont des clés pour comprendre pourquoi le monde est tel qu'il est. Proverbe 9, verset 10 dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Oui, celui qui craint Dieu va aussi lui obéir. Il va faire ce que Dieu lui commande. Il va suivre ses instructions. À nouveau, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Lorsqu'on rejette la Bible, on rejette la connaissance de Dieu, et on est alors obligé de se débrouiller tout seul. Voilà la raison pour laquelle le monde ne comprend pas pourquoi nous avons tous ces problèmes aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu et aux Écritures. La devise qu'avait jadis l'ambassadeur collège, de même que l'université du Dieu vivant, et je pense que c'est encore la devise de la Living Education, c'est que la parole de Dieu constitue le fondement de toute connaissance. Oui, ce livre est le fondement de tout. Les principes que nous y trouvons fournissent une vision que nous ne pouvons obtenir d'aucune autre source. C'est pourquoi le monde ne comprend pas pourquoi nous avons les problèmes que nous avons. La parole de Dieu est le fondement de la connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de son plan et du but qu'il poursuit. La connaissance de l'être humain, à savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes. Tout cela nous est révélé dans les Écritures. Psaume chapitre 119, verset 98 énonce « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » Lorsque nous les étudions, cela nous rendra plus sages que les critiques qui aiment critiquer ces mêmes commandements. Osée chapitre 8, verset 12, contient une observation très intéressante. Une prophétie qu'Osée a faite vers l'an 700 avant Jésus-Christ. Osée y mentionne que Dieu a donné à Israël les grandes choses de sa loi, mais que les Israélites en sont venus à considérer cette loi comme étrange. Oui, Dieu a donné à l'ancien Israël ses lois. Il les a qualifiées de merveilleuses, et il a dit qu'elles étaient les clés de la vie. Mais les Israélites en sont venus à considérer sa loi comme quelque chose d'étrange. Nous venons d'entendre une sermonnette à propos des viandes pures et impures. Si, aujourd'hui, vous dites aux gens que vous ne mangez pas de crevettes, ils vous répondront « Quoi? Vous ne mangez pas ces petites choses juteuses? Mais ce sont des délicatesses. » Peut-être, n'empêche qu'elles se tiennent au fond de l'eau, où elles absorbent tous les détritus qui s'y trouvent. Allons-nous alors consommer ces déchets? Ce serait comme manger le contenu du sac de votre aspirateur. Est-ce pour ça qu'ils vont boire un verre de whisky après les avoir mangés, pour tuer toute la vermine qu'ils auront ingérée? Les gens ne se demanderont pas quelle est la fonction que remplissent ces créatures. On dira qu'elles sont bonnes à manger, qu'elles sont pauvres en graisse, et l'on oubliera qu'elles sont les aspirateurs de la mer. Elles ont été conçues pour filtrer les bactéries, les virus et les métaux lourds, et elles vont concentrer ces choses dans leurs tissus. C'est cela que nous allons manger. Dire que le monde pense qu'il serait fou de renoncer à manger ces choses. Nous avons vécu dans la région de Boston pendant une dizaine d'années, et lorsque vous allez au centre-ville de Boston, vous y trouverez des restaurants où l'on va vous servir des huîtres et des homards. Cela représente une grande partie de l'économie de la région. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas censés manger ces choses, et cela pour des raisons précises. Et ces raisons nous sont données dans la Bible. Mais, en tant qu'Israélites de l'époque moderne, nous sommes comme les anciens Israélites. Nous considérons ces recommandations bibliques comme quelque chose d'étrange. Elles ne sont pas étranges, elles sont très utiles au contraire. Que révèlent les Écritures à propos du monde et des problèmes qui l'assaillent aujourd'hui? De nos jours, les hommes de science regardent autour d'eux. Ils considèrent ce qui est visible, ce qui peut être mesuré et quantifié à l'aide d'instruments. Et ils supposent que le physique, le matériel et tout ce qu'il y a, oui, ils prennent pour acquis que le monde physique et matériel est tout ce qu'il y a. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il existe une autre dimension, une dimension au-delà du physique. Et cette autre dimension est le monde spirituel. Évidemment, si vous deviez mentionner pareille chose à des étudiants en sciences, vous vous attireriez sûrement des regards étranges. Mais le monde des esprits existe vraiment, et l'on a tout intérêt à ne pas s'en mêler. Il y a cependant des gens qui le feront, qui vont explorer le monde spirituel, jouer au Ouija ou à des jeux de ce genre, où les tables peuvent se lever et où des choses se produisent. Et ils seront fascinés par ça, car il y a là quelque chose de réel. Vous ne pouvez pas le mesurer, certes, mais c'est réel. La Bible nous dit de faire très attention à ces choses, de ne pas nous en mêler. La Bible révèle qu'il y a en effet une autre dimension, qu'il y a un monde des esprits, des êtres spirituels dont certains sont bons et d'autres mauvais. Nous devons nous pénétrer de ce concept de base parce que le monde des esprits peut réellement influencer les gens. Dieu peut en effet mettre des pensées dans votre esprit. Ainsi, je me souviens d'avoir parcouru la Nouvelle-Angleterre en voiture pour y faire quelques visites. Beaucoup de routes là-bas sont d'anciens sentiers de vaches qui ont été pavés par la suite. Ces routes allaient dans tous les sens, et les GPS n'existaient pas encore à cette époque. Alors je priais, « Mon Dieu, il me faut trouver cet endroit. En temps normal, j'aurais fait usage d'une carte, mais ici, ce n'était pas possible. » Mais alors que je roulais, je vis soudain apparaître le nom de la rue que je cherchais. Dieu peut influencer les choses pour le bien, mais il y a aussi une influence qui peut nous être très néfaste si nous ne restons pas sur nos gardes, si nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Je me souviens que nous avions deux dames dans l'une des congrégations dont j'étais le pasteur. Elles étaient nouvelles dans l'église. Or, voilà qu'un soir, elles m'appellent pour me dire que des choses étranges se passaient chez elles. « Nous entendons vibrer nos fenêtres. Il y a des portes et des tiroirs qui s'ouvrent et se referment. » Alors je leur ai demandé, « Qu'avez-vous fait ?» Et elles ont répondu, « Rien. Nous avons seulement fait une étude biblique à propos de Satan. » Je leur ai alors conseillé, « Pourquoi ne changez-vous pas le sujet de votre étude biblique ? Commencez par exemple à lire le livre des Proverbes, ou le livre des Psaumes, ou encore, commencez à écouter de la belle musique. » Bref, changer d'environnement. Lorsque je les ai revus à l'église, une ou deux semaines plus tard, je leur ai demandé, « Alors, comment ça se passe chez vous ?» Ce à quoi elles ont répondu, « Que tout allait bien à présent. » C'est parce qu'elles avaient changé leur sujet d'étude. Au lieu de faire une étude sur Satan, elles s'étaient concentrées sur les psaumes, ce qui créait un environnement mental et physique très différent. Ces choses sont donc réelles. Il y a des gens qui se fascinent pour des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer, et la Bible nous parle effectivement d'un monde des esprits. J'ai choisi comme titre pour le sermon d'aujourd'hui « Une histoire à propos de deux esprits ». Une histoire à propos de deux esprits. Le jour de la Pentecôte, nous parlons de l'Esprit de Dieu, mais nous devrions aussi en parler à d'autres moments de l'année. Je veux dans ce sermon parler de deux esprits, parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre le monde d'aujourd'hui si on ne comprend pas qu'il y a deux esprits qui influencent ce monde. Dr. Meredith avait écrit à propos de l'univers alternatif de Satan. Satan a en effet sa propre façon de faire les choses, Dieu aussi, mais sa façon de procéder est très différente. Je trouve qu'il est difficile de donner un sens à ce monde si on ne comprend pas qu'il y a deux esprits qui l'influencent. Ce n'est qu'ainsi que nous serons à même de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés ici-bas. Pourquoi va-t-il arriver de bonnes choses? Pourquoi de mauvaises choses frapperont-elles parfois de bonnes personnes? Parce que Satan va essayer de travailler sur nous pour nous décourager. Il essaiera d'attirer notre attention, de nous influencer et de nous tenter, et nous devons en être conscients, car tout cela fait partie de la vie. J'aime utiliser cet exemple de mes fils. Un vendredi soir, nous remontions du sous-sol où nous étions descendus pour parler. Je me trouvais être en haut des marches. Venait ensuite mon plus jeune fils, je ne citerai pas les noms pour ne pas les gêner, et mon fils aîné suivait derrière lui. Tout à coup, mon fils aîné se met à pousser un cri, tout en se tenant le ventre, disant, « Mon frère vient de me donner un coup de pied dans l'estomac. » J'ai alors saisi mon plus jeune fils, et je lui ai dit, « Pourquoi as-tu fait ça ?» À cela, il a répondu, « Je ne sais pas, j'en avais juste envie. » Je lui ai alors demandé, « Qui, à ton avis, t'a donné l'idée de frapper ton frère dans l'estomac ?» Après quelque hésitation, il a fini par dire « Je pense que je le sais ». Alors je lui ai dit « Écoute, une des leçons de la vie, c'est qu'il ne faut pas agir selon toutes les pensées qui te viendront à l'esprit. Il te faudra les évaluer, et il y en aura certaines que tu devras rejeter et ne pas leur donner suite. Il nous faut leur expliquer ces choses, leur expliquer d'où viennent ces pensées qui se traduiront en action. Les gens vont parfois dire « J'ai eu cette drôle de pensée » ou « Quelque chose m'a poussé à faire telle chose ». À moins d'être conscient de l'origine de ces pensées, nous allons parfois nous laisser entraîner à faire des choses que nous pourrions regretter par la suite. Je vais donc aujourd'hui parler de deux esprits. Le premier dont nous allons parler est le Saint-Esprit de Dieu. Encore une fois, nous devons aborder ce sujet plus qu'une fois par an, parce qu'il s'agit d'un élément de compréhension que Dieu nous accorde, à nous qui ne formons qu'un très petit groupe à l'heure actuelle. C'est quelque chose que nous avons l'occasion d'apprendre à utiliser. Négligez d'en faire usage, et vous pourriez perdre l'avantage qu'il représente. Allons à Actes chapitre 2, où nous voyons Pierre qui vient de prêcher un sermon le jour de la Pentecôte. Les gens avaient été émus. Au verset 38, nous lisons, Actes 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre répondait ainsi à leur question, « Que ferons-nous ? » Il parlait du don du Saint-Esprit. C'est quelque chose que Dieu met à notre disposition, mais à certaines conditions. Il nous faudra nous repentir et en arriver à comprendre que nous avons eu tort et qu'il nous faut maintenant prendre une autre direction. Il nous faut donc nous repentir. Par le baptême, nous nous engageons envers Dieu à vivre selon ses lois, à vivre selon ses instructions. Cela fait partie de l'alliance que nous contractons avec lui. Et puis, la Bible parle aussi de l'imposition des mains. Nous demandons au ministre de nous imposer les mains, nous plaçant ainsi sous l'autorité de Dieu et de l'Église. Et nous devrons ensuite obéir à Dieu. Il ne suffit pas de simplement faire un geste de la main ou de prononcer quelques mots-clés pour que quelque chose de magique se produise. Ce qu'il faut, c'est vivre selon les lois de Dieu. Cela fait partie de ses instructions. Actes chapitre 5, verset 32, dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Pas seulement à ceux qui veulent être chrétiens, mais à ceux qui lui obéissent. Si nous cessons d'obéir à Dieu, il nous retirera son esprit. Voici donc les instructions auxquelles nous devons nous conformer. Vous le savez, le monde dans son ensemble s'est laissé séduire par la doctrine de la Trinité, doctrine selon laquelle la famille de Dieu serait limitée à trois entités. J'ai eu, il y a quelques années, une expérience intéressante avec un jeune homme qui avait découvert l'Église. Il m'avait alors appelé et nous avons encore eu plusieurs conversations téléphoniques par la suite. Il est même possible que nous nous soyons rencontrés en personne, je ne me souviens plus. Il s'efforçait d'apprendre le plus possible par lui-même. Un jour, il avait découvert un livre qui disait grosso modo que si l'Église qui vous intéresse n'enseigne pas la doctrine de la Trinité, qu'alors elle ne pouvait pas être une véritable Église chrétienne. Or, il avait appris que nous ne croyons pas en la Trinité. Il a donc décidé, en se basant sur ce que disait ce livre, qu'il ne pouvait pas considérer de se joindre à nous, vu que nous refusions cette doctrine. Je me suis alors efforcé de lui expliquer pourquoi nous refusions de croire à ce concept de Trinité, mais je pense qu'il a, en définitive, accordé plus de crédibilité à ce livre qu'à moi et à mes explications. Ainsi, pourquoi ne croyons-nous pas à la Trinité? Voilà brièvement quelques-unes des raisons. Essayez de trouver le mot « Trinité » dans la Bible pour savoir ce qu'elle en dit. Vous ne trouverez pas ce mot dans la Bible. Il n'y figure tout simplement pas. Ainsi, l'un des enseignements de base du christianisme de ce monde concerne la Trinité. Or, il n'est nulle part question de Trinité dans la Bible. Considérez les salutations de Paul dans ses épîtres. Voyez notamment Romains chapitre 1, verset 7 et 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3, où Paul prononce des salutations au nom du Père et de Jésus-Christ. Mais il n'est fait aucune mention du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit était une personne, alors Paul ignorerait tout simplement le Saint-Esprit en tant que personne. Allez rapidement à Jean chapitre 14, l'une des Écritures que le monde utilise pour conclure que le Saint-Esprit est une personne. Nous avons publié plusieurs documents sur le sujet, mais notez simplement ce que Jésus dit à ses disciples durant la nuit précédant sa crucifixion. Jean chapitre 14, versets 15 et 16. Jean chapitre 14, versets 15 et 16. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Voilà ce que le monde utilisera pour conclure que le Saint-Esprit est une personne. Notez qu'ici, le mot « consolateur », du grec « parakletos », est un mot masculin, ce qui nécessite qu'on utilise un pronom masculin pour le désigner. C'est aussi pourquoi on emploie le pronom « il » dans l'expression « afin qu'il demeure éternellement avec vous ». Cela dit, évidemment, si le mot « parakletos » était un mot féminin, alors il vous faudrait dire « afin qu'elle demeure éternellement avec vous ». Seulement voilà, le Saint-Esprit n'est ni masculin ni féminin, mais neutre. Note du traducteur, les deux autres exemples que Dr. Winner introduit ensuite pour montrer que le Saint-Esprit n'est pas une personne, une troisième entité dans la famille divine, ne mènent à rien de concluant dans la langue française. Il ne sert donc à rien d'en faire la traduction. Dr. Winner citait en appui l'exemple de ce grand affleurement rocheux dans le parc national Yosemite aux États-Unis, qu'on appelle El Capitan. En espagnol, El indique que c'est un mot masculin. Cependant, ce rocher, même si on le désigne par El, n'est pas pour autant masculin, comme une personne pourrait l'être. En français, il l'est, cependant, grammaticalement. Alors qu'en anglais, on lui attribuerait le terme neutre « it ». L'autre exemple fait appel à une table, en espagnol « la mesa », un terme qui est grammaticalement féminin, d'où l'emploi de « la ». Cependant, là encore, en anglais, on emploiera le terme neutre « it » lorsqu'on voudra dire qu'on a posé quelque chose sur elle, sur la table. Il n'en sera pas de même en français. Oh, que tout ceci est compliqué, surtout pour un traducteur. En résumé, retenez que ce n'est pas parce que l'on dira du Saint-Esprit ou du Consolateur qu'il demeurera éternellement avec vous, qu'on pourra en conclure qu'il s'agit d'une personne. La Nouvelle Encyclopédie catholique fait ces observations très intéressantes. Dans l'Ancien Testament, il est question de l'Esprit de Dieu. Elle, cette Nouvelle Encyclopédie catholique, dit « L'Esprit de Dieu n'est clairement pas une personne, mais plutôt la puissance de Dieu. » Et la Nouvelle Encyclopédie catholique d'ajouter « Le Nouveau Testament dit que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, c'est quelque chose et non pas quelqu'un. C'est ce que les catholiques comprennent. Du moins, leur livre le dit. Cependant, dans les faits, ils prêchent des choses qui sont plutôt différentes. Allons rapidement à Actes chapitre 1, où nous trouvons confirmé l'essentiel de ce que nous venons d'aborder. Nous y voyons Jésus qui donne quelques instructions à ses disciples. Actes chapitre 1, versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Notez que Jésus a dit « Vous recevrez une puissance ». Dans Actes chapitre 2, cette puissance s'était manifestée par le vent qui se précipitait dans la salle, les flammes de feu qui apparaissaient sur la tête des disciples, ainsi que la capacité de parler en différentes langues. Tout cela était dû à la puissance du Saint-Esprit et n'était ni associé au pronom « il » ni au pronom « elle », mais était associé à la puissance de Dieu, ce qui est conforme à ce qu'avait dit la Nouvelle Encyclopédie catholique. Dans Actes chapitre 8, verset 19, lorsque Simon le magicien vit les miracles que les apôtres faisaient, il dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir ». Il n'est donc pas question d'une personne ici, mais de la puissance du Saint-Esprit. Ici, les Anglais emploieront le terme grammaticalement neutre « it ». À nouveau, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Ce n'est pas une troisième personne dans la Trinité. C'est plutôt la puissance de Dieu qui nous est disponible, à vous et à moi, Par ailleurs, la Bible indique clairement que l'Esprit de Dieu n'est pas donné à tout le monde à l'époque présente. Il n'est donné qu'à un petit nombre de personnes. C'est donc quelque chose qu'il nous faut grandement apprécier, car c'est un énorme privilège. Mentionnons en passant ces quelques passages de la Bible. Tout d'abord, Ésaïe 65, verset 1, où Ésaïe mentionne une prophétie de Jésus-Christ. « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai été trouvé par ceux qui ne m'ont pas cherché. » Notez que Paul dit à peu près la même chose dans Romains chapitre 10 au verset 20 lorsqu'il s'adresse à des gentils, c'est-à-dire à des non-juifs. Mais je crois qu'on peut considérer cela dans un sens plus large. Ainsi, pensez à votre propre appel. Combien d'entre vous cherchaient activement Dieu? Ce n'était certainement pas mon cas. Je venais de compléter ma première année d'études supérieures et j'étais revenu à la maison pour y passer 2 semaines de vacances. J'avais l'intention de renouer avec le monde et de m'intéresser à tout. À la maison, je retrouvais mon jeune frère qui fréquentait alors notre collège de Bricketwood en Angleterre. Le voilà maintenant qui a l'audace de se moquer de moi et de dire « Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas ? » Pensez-y, c'était mon jeune frère. Il m'a cependant donné quelques brochures à lire, et figurez-vous que je les ai lues. Leur contenu faisait du sens. Après mes 2 semaines de vacances, je repartis pour le Mississippi, où je suivais mes cours. J'ai alors commencé à aller à la bibliothèque tous les sabbats. Puis j'ai fini par appeler le pasteur local, disant « J'aimerais observer le sabbat ». Ce à quoi il m'a répondu « Que faites-vous le jour du sabbat ?»« Eh bien, je passe mon temps à la bibliothèque. » « Ah oui ? Eh bien, traversez la rue. Nous nous rencontrons à l'étage, au 2e étage du YWCA. » Je n'avais pas cherché ça du tout. Pensez à votre propre cas. Comment Dieu a-t-il pris contact avec vous ? Comment a-t-il attiré votre attention ? La Bible dit que Dieu va être trouvé par vous parce que Lui vous cherche. Oui, c'est Lui qui vous cherchera. Il n'appelle à présent qu'un tout petit nombre de personnes. Voyez Jean chapitre 6, verset 44, et Jean chapitre 6, verset 65. Il nous est dit ici que, si vous n'êtes pas appelé, si Dieu ne vous appelle pas, il vous sera très difficile de comprendre le but de la vie et de trouver de vraies réponses aux questions importantes de la vie. Votre appel vous permettra de comprendre la vérité de Dieu. C'est aussi pourquoi il est vain de vouloir convertir votre prochain. Mon frère et moi avons essayé de convertir nos parents, et ça n'a pas marché. Je suppose que nous étions de mauvais évangélistes. Encore une fois, laissez-moi vous le dire, vous ne pouvez pas faire comprendre aux gens ce que vous comprenez, à moins que Dieu n'ouvre leur esprit par son Saint-Esprit. Cela dit, pour ceux d'entre vous qui êtes plus jeunes et qui grandissez dans l'Église, ne prenez pas pour acquis ce que vous avez été capable de comprendre en allant à l'Église et en vivant avec vos parents. Vous avez là une compréhension très spéciale. Ne la prenez pas à la légère. Il y a un an environ, j'ai rencontré un homme d'âge moyen et lui ai demandé « Comment êtes-vous entré dans l'Église ?» Il m'a répondu « J'ai grandi dans l'Église. » « Oui, j'ai grandi dans l'Église. » Mais je l'ai quitté ensuite pendant 10 ou 15 ans. Et il a ajouté « Quelle perte de temps !» « Quelle perte de temps que d'être parti pendant 10 ou 15 ans !» En fin de compte, il est revenu et il s'efforce à présent de rattraper son retard. Voici quelqu'un qui a été élevé dans l'Église, mais qui en est venu à conclure que l'herbe était plus verte de l'autre côté de la clôture. Alors il est parti, mais il a dû se rendre à l'évidence que l'herbe n'était pas plus verte là-bas, que les problèmes y étaient même plus grands. Ne prenez pas pour acquis ce qui vous a été donné. Accrochez-vous à ce qui vous a été donné. Jean chapitre 15, verset 16, nous montre comment opère l'Esprit de Dieu. Nous y voyons Jésus qui parle à ses disciples la nuit avant sa crucifixion, disant, Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Mettez votre nom ici. Oui, Dieu dit, je t'ai choisi, toi, John, Sally, Susie. » Peu importe votre nom. Pouvez-vous vous mettre dans la tête que Dieu vous a choisi personnellement parmi les milliards de personnes sur la terre? Nous avons été appelés à faire partie d'un petit groupe, d'un petit troupeau. Il y a quelques années, je suis retourné à une réunion organisée par notre ancien lycée. Et j'y ai parlé avec un copain qui a fréquenté par la suite l'Académie militaire américaine de West Point, avant de se rendre en Asie du Sud-Est. Nous avions joué au basket ensemble, et il m'a demandé ce que j'avais fait depuis notre graduation. Moi aussi, je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Puis, je crois lui avoir laissé une copie de notre brochure Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. Je n'ai jamais plus eu de ses nouvelles depuis. J'ai aussi donné un tel exemplaire à un autre copain du même lycée. Mais, là encore, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles par la suite. Je croyais devoir partager ces choses avec eux, parce que je croyais qu'avec un peu de chance, je les reverrais peut-être un jour à la résurrection. Et je ne voulais pas qu'ils me disent « Tu ne m'as jamais dit dans quoi tu étais. » Oui, j'ai essayé de partager, mais si Dieu n'ouvre pas leur esprit, cela ne fera pas beaucoup de sens pour eux. Cela me fait aussi penser à un autre de mes copains du lycée qui avait reçu un abonnement à l'une de nos revues. Il était alors à l'hôpital et avait commencé à en lire quelques passages, mais il ne tarda pas à m'avouer qu'il n'y comprenait rien. Écoutez, si vous comprenez le plan et le but de Dieu, si vous commencez à comprendre la Bible, c'est parce que Dieu a ouvert votre esprit avec son esprit, ce qui est une formidable opportunité. Pourquoi voudrions-nous recevoir le Saint-Esprit? Oui, pourquoi? Je me souviens de ma première fête des tabernacles. Je suivais alors des cours au Mississippi. J'avais pris un autobus qui me conduisait en Alabama, et de là, il me fallait transférer pour me rendre à Brunswick, en Géorgie. J'attendais donc mon transfert pour Brunswick lorsque je remarquais des gens plutôt bien habillés et portant des valises. Nous avons alors échangé une conversation. Ils m'ont alors demandé d'où je venais, ce à quoi j'ai répondu « du Mississippi ». Ils ont ensuite voulu savoir où j'allais. En fait, à Jekyll Island, fut ma réponse. J'ai vu des étincelles dans leurs yeux. Vous n'iriez pas à la fête par hasard? Mais oui, c'est là que je vais, fut ma réponse. Depuis combien de temps êtes-vous dans l'église? Oh, seulement depuis 2 ou 3 mois. Ah bon? Êtes-vous baptisé? À cela je répondis. J'ai été baptisé quand j'étais petit. Alors il vous faudra vous faire baptiser à nouveau. Quand je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit que c'était afin que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Je voulus alors savoir pourquoi, car, à l'époque, je n'avais aucune idée de ce qui était en jeu. Évidemment, plus tard, suite à quelques recherches personnelles, et après avoir entendu quelques sermons sur le sujet, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'avais absolument besoin du Saint-Esprit. Laissez-moi vous en parler un peu. Quelle est l'action du Saint-Esprit en nous? Reportons-nous à Matthieu chapitre 13. Par son esprit, Dieu commencera en fait à travailler avec vous avant même que vous ne soyez baptisés. Il vous conduira, vous guidera et fera des choses dans votre vie pour attirer votre attention. Voyons Matthieu chapitre 13, où Jésus parle avec ses disciples qui lui posent une question. Encore une fois, ce sont d'importantes questions qu'il pose ici à Jésus. Elles ne m'ont peut-être pas semblé si importantes sur le coup, mais quand on les met en perspective, elles sont vraiment très importantes. Matthieu 13, versets 10 et 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Oui. Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, le but de votre vie dans la chair, ainsi que ce qui se passe dans le monde. Il vous a été donné, à vous le peuple que Dieu appelle, les individus que Dieu appelle, de comprendre le plan de Dieu et le but de la vie, la voie de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul parle essentiellement de la même chose. Il s'adresse ici à un public de non-juifs et non à ses disciples, aux membres d'une communauté assez influente de la ville de Corinthe. 1 Corinthiens 2, Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Si nous sommes attirés par le monde, nous devons comprendre que ce monde va disparaître, que cet âge touche à sa fin. Si vous êtes tenté de quitter l'Église, avant que cela n'arrive, si vous décidez de faire ceci ou cela, soyez conscient du fait que ce monde arrive à sa fin, et peut-être plus tôt que nous ne le pensons. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Oui, Dieu a conçu un plan depuis le tout début. Le monde ne comprend pas cela, mais Dieu nous a appelés et nous a donné une compréhension spéciale. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Cet Esprit qui agit dans votre esprit pour vous donner la capacité de commencer à comprendre la Bible, ce que le monde ne peut pas. Oui, c'est grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu que vous le pouvez, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est donc l'Esprit de Dieu en nous qui agit sur notre esprit et qui nous donne cette capacité de commencer à comprendre la Bible. Le but de la vie humaine, ce n'est pas quelque chose à prendre pour acquis. C'est quelque chose qu'il nous faut vraiment apprécier et valoriser au plus haut point. Si vous consultez Jean chapitre 14, versets 15 à 17, vous verrez qu'on y parle du Saint-Esprit comme étant un esprit de vérité. Il vous guidera vers la vérité. Il y est dit également que le monde ne peut pas recevoir cet esprit. Seuls ceux que Dieu appelle peuvent le recevoir. Plus loin, dans Jean 14, au verset 26, il est dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous aidera à regrouper les choses afin de donner un sens à votre vie et à comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Même chose en ce qui concerne Jean, chapitre 16, verset 13. Ainsi, Jean, chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16 contiennent des informations fondamentales sur le monde spirituel. Jean 16, verset 13, dit que le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité. Il vous aidera à comprendre la vérité de Dieu. Pour sa part, Jean 8, verset 32, dit que la vérité vous rendra libre. Lorsque vous comprenez la vérité sur Dieu, la vérité sur la Bible, la vérité sur les doctrines, vous ne vous laisserez pas tromper. Vous aurez une vision claire des choses. Vous savez, le jeune homme avec qui je parlais de la Trinité ne voyait pas clair. Il ne pouvait pas discerner la vérité, malgré toutes ces écritures que nous avons parcourues ensemble. Il a fini par dire « Oui, mais mon livre dit que la Trinité doit être un enseignement fondamental de toute véritable Église. Pourtant, ce n'est pas dans la Bible. » Cela me rappelle une conférence que j'ai entendue il y a quelques années. L'orateur disait au départ « Ce qui va être abordé dans cette conférence n'est pas dans la Bible. » Pourtant, il s'attendait à ce que tous les auditeurs écoutent la conférence. Et beaucoup de gens sont partis sur une fausse piste à cause de cela. Jean 17, verset 17, parle de la vérité de Dieu. Disons-le rapidement. C'est le commentaire final de Jésus à l'issue de la prière qu'il avait faite en présence de ses disciples juste avant sa crucifixion. Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » À noter que « sanctifier » signifie « mettre à part pour un but saint ». Jésus voulait que Dieu le Père sanctifie ses disciples. Ainsi, c'est la vérité de Dieu qui distingue l'Église de Dieu de toutes les autres églises du monde. Je parle ici de la vérité sur la Trinité, la vérité sur le but de la vie humaine, la vérité sur les jours saints. C'est la vérité qui distingue l'Église. De son vivant, M. Armstrong avait dressé une liste de 18 vérités. Cela incluait la vérité sur les jours saints et comment ils représentent le plan de Dieu, ainsi que la vérité sur l'identité d'Israël, ce qui est une clé pour comprendre la prophétie biblique. Et pourtant, ces choses ont été abandonnées par plusieurs personnes qui ont quitté l'Église. Je me souviens d'avoir demandé à l'une d'entre elles, « Qu'allez-vous faire de notre brochure sur les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ?» Ce à quoi ce leader a répondu, « Nous ne sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous allons en faire. C'est pourtant une clé essentielle pour comprendre la prophétie biblique. Et vous n'êtes pas sûrs de ce qu'il faut en faire ? Si nous n'accordons pas de valeur à cette vérité, n'allons-nous pas tomber dans le fossé sur le bord du chemin ? Pourquoi Dieu ne donne-t-il présentement ce don du Saint-Esprit qu'à quelques personnes ? Oui, pourquoi, à l'heure actuelle, Dieu ne révèle-t-il cette vérité à propos du Saint-Esprit qu'à quelques personnes ? Pensons à ce que dit Luc, chapitre 12, au verset 48. « À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. » Nous avons reçu la formidable opportunité de comprendre certaines des grandes questions de la vie, pourquoi le monde est comme il est, et il nous faudra en rendre compte. Une partie de notre travail consiste à avertir le monde de ce qui va arriver. Nous avons le devoir de répandre l'Évangile, la bonne nouvelle de ce qui attend l'humanité, et nous savons que nous serons impliqués dans sa délivrance. C'est un sujet passionnant. Mais pourquoi Dieu ne donne-t-il à l'heure actuelle son Saint-Esprit qu'à quelques personnes ? Quelques versets me viennent à l'esprit. Tout d'abord, Genèse chapitre 12. Dieu a une mission pour les personnes avec lesquelles il a choisi de travailler. Nous ne voudrons jamais perdre de vue cette mission. Nous avons été appelés à faire partie d'une Église qui a une mission. Nous ne pouvons pas nous laisser égarer par d'autres choses. Genèse chapitre 12 parle brièvement de l'ancêtre des Israélites. Dieu avait choisi Abraham et voulait travailler avec lui. Voici quelle était sa mission. Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La plupart d'entre nous ont été appelés à sortir de notre petit monde. Nous avons quitté des familles, nous avons quitté des amis. Dans certains cas, nous avons même dû quitter notre environnement familier. Nous savons que Dieu a donné ses lois aux Israélites afin qu'ils soient différents. Oui, ils devaient poursuivre un mode de vie totalement différent de celui du monde. Mais leur mission était de partager ce mode de vie avec le reste du monde, d'être une lumière pour le monde. Hélas, Israël n'a pas respecté sa promesse, son engagement, et a dû en payer le prix. Lisez Deutéronome 4, versets 1 à 11. Deutéronome 4, versets 1 à 11. « Et vous verrez Dieu dire aux Israélites, « Je vous ai donné mes lois, afin que vous soyez un exemple pour le monde. » Aujourd'hui, on entend dire communément que la loi est un fardeau, voire une malédiction. Pourtant, 1 Jean 5, verset 3, dit que la loi n'est pas un fardeau. Non, elle est au contraire une bénédiction. Bon, d'accord, si ne pas manger de crevettes ou de homards représente pour vous un fardeau, alors il vous faudra le porter, du moins si vous voulez suivre les instructions de la Bible. Notez cependant qu'en le faisant, vous pourrez aussi vous éviter beaucoup de maladies et de problèmes. Donc, suivre les directives de Dieu vous apportera des bénédictions et non des malédictions. Luc 1, verset 17, parle de la mission de Jean-Baptiste. Mais cela est aussi notre mission. C'est quelque chose que nous devrons prendre au sérieux en tant qu'Église. Parlant de Jean-Baptiste, Luc y dit, Luc 1, verset 17, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On le sait, Élie avait fait des choses surprenantes. Il en a été de même avec Jean-Baptiste. Christ va revenir et il va avoir besoin d'une équipe de personnes prêtes à enseigner ses lois au reste du monde. Êtes-vous prêt à le faire? Vous préparez-vous pour cela? Nous devons nous y préparer, parce que c'est notre avenir. Il est donc important de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu, de nous familiariser avec les Écritures, et de faire ce qu'elles nous demandent, bref, d'obéir à Dieu. Acte 5, verset 32, dit que Dieu donne son Esprit à ceux qui lui obéissent. Si vous cessez d'obéir à Dieu, il commencera à retirer cet esprit, et vous perdrez votre assurance et votre compréhension. Je me souviens d'avoir parlé à une personne il y a quelques années. C'était dans les années 70. Une grande partie de nos membres de la côte Est nous avait alors quittés pour aller dans une autre direction. C'était l'un de ces appels téléphoniques qui vous retiennent pendant près de 2 heures. Vous avez le sentiment de tourner en rond, et à la fin de la conversation, vous vous demandez « Qu'ai-je accompli ?» Rien. Lui est parti dans sa direction, et moi je suis resté où j'étais. J'avais noté chez lui une perte de compréhension, car il ne cessait de répéter « Vous savez, les baptistes font du bon travail, les méthodistes font aussi du bon travail, beaucoup d'églises font du bon travail. » Oui, la compréhension avait disparu, celle que nous avions en commun auparavant. Lorsque vous cessez d'observer les lois de Dieu, Dieu vous retire son esprit. Il y a là une dynamique à l'œuvre. C'est pourquoi nous devons rester proches de Dieu. Nous devons prier tous les jours. Nous devons étudier les Écritures tous les jours, afin que la parole de Dieu imprègne notre esprit et que nous soyons en quelque sorte au diapason de Dieu. Si nous passons trop de temps sur Internet et nous livrons à des commérages, l'Esprit de Dieu nous quittera. Quand j'étais à l'université, nous vivions dans une maison de fraternité, et notre langage n'était pas toujours très convenable, et cela a fini par déteindre sur moi. Je me suis ainsi retrouvé à dire des choses parce que je les avais entendues. J'ai entendu le commentaire « Doug a dit ça !» et cela m'a gêné. Voyez-vous, quand vous fréquentez des gens qui ont un certain vocabulaire, cela va finir par déteindre sur vous. Mais si nous nous concentrons sur les Écritures et que nous les laissons saturer notre esprit, nous nous éviterons d'être infiltrés par ces autres choses. Je me souviens d'avoir parlé un jour avec une dame qui était une adventiste du septième jour, et je lui ai dit « J'ai entendu dire que vous croyez que c'est mal de boire du café ou du thé. » À cela, elle m'a répondu « C'est exact. » Puis j'ai ajouté « Mais vous arrive-t-il parfois de boire du café ou du thé ?» À mi-voix, elle m'a alors confié. « Eh bien, je l'avoue, ça m'arrive de temps en temps, quand je ne suis pas sur mes gardes. De même, si nous ne faisons pas attention, il se pourrait que de mauvaises pensées pénètrent dans notre esprit. Nous devons donc rester sur nos gardes. Dieu s'attend à ce que son esprit produise du fruit en nous. C'est pourquoi il nous l'a donné. Il serait bon que nous relisions Galates chapitre 5, versets 16 à 26. Galates 5, versets 16 à 26, où il est justement question du fruit de l'Esprit de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Alors, demandez-vous, ai-je été patient aujourd'hui dans mes relations avec les gens? Suis-je en paix avec moi-même, avec mon conjoint, avec mes enfants? L'Esprit de Dieu nous donne un sentiment de paix, parce que nous comprenons que Dieu est de notre côté. Romains 8, verset 28, dit que « toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu ». Quand les choses se corsent, revenons à ces Écritures, où Dieu nous dit qu'avec lui, tout est possible. Oui, tout est possible. Ainsi, quand vous êtes confronté à une situation qui peut sembler inquiétante, soyez confiant que ça va s'arranger. Cela s'arrangera si nous nous tournons vers Dieu pour qu'il guide les choses, si nous faisons ce que nous sommes censés faire, et ne nous inquiétons pas de ce que quelqu'un d'autre pourrait nous faire. L'influence de l'Esprit de Dieu est puissante. J'aimerais ici revenir à un exemple de l'Ancien Testament. Allons à 1 Samuel, chapitre 10, où Dieu avait demandé à Samuel d'oindre Saül en tant que premier roi en Israël. Voyez ce que l'Esprit de Dieu produisait en lui lorsqu'il le reçut. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Puis au verset 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Oui, l'Esprit de Dieu va nous changer. Que vous est-il arrivé lorsque Dieu a commencé à travailler avec vous? Vous avez probablement commencé à observer le sabbat. Vous avez arrêté de fumer. Vous avez fait ceci ou cela. Les gens ont remarqué que vous étiez différent. Ainsi, l'Esprit de Dieu va nous changer, nous donner une orientation différente. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Verset 11. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, « Qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Ils ont donc remarqué que Saül était différent, qu'il était changé. Mais remarquez ce qui se passe ensuite. Quelques chapitres plus loin, Saül ayant cessé d'obéir à Dieu, Samuel reçoit l'ordre d'aller oindre David. Allons à 1 Samuel, chapitre 16. Au verset 12, Samuel finit par être mis en présence de David. Et Dieu lui dit, « C'est lui !» Alors, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Mais notez la suite. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ainsi, lorsque Saül reçut l'Esprit de Dieu, il devint une personne différente. Mais lorsqu'il se mit à désobéir à Dieu, cet esprit lui fut retiré, et Saül fut alors affligé par un esprit très pénible qui se mit à le troubler. On voit ici comment l'Esprit de Dieu peut agir sur une personne. Il nous faut apprendre à l'utiliser. Voyons quelques autres principes dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 16. Il y est question de l'homme intérieur qui doit être renouvelé chaque jour. Il nous faut prendre l'habitude de prier, de lire la Bible chaque jour et aussi de méditer sur ce que nous lisons. J'ai commencé à faire cela depuis peu. Je vais parfois m'accorder une pause et penser aux événements de la journée. Oui, donnons-nous du temps pour réfléchir, du temps pour penser. Nous avions une certaine activité à l'époque où j'enseignais à l'Ambassador College à Pasadena. Nous emmenions un groupe d'étudiants, hommes et femmes, jusqu'à Lake Arrowhead, où nous avions loué un grand chalet pouvant contenir jusqu'à 40 personnes. On mettait les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Le vendredi après-midi, alors qu'on préparait le dîner, quelqu'un avait demandé « Pouvons-nous jouer un peu de musique à l'approche du sabbat ?» J'ai alors répondu « Oui, pourquoi pas ?» Ensuite, je n'ai plus rien dit. Ils ont donc fait jouer deux ou trois disques de circonstance, puis quelque chose d'autre a suivi, et quelque chose d'autre, si bien qu'au moment où nous sommes allés nous coucher, ce n'était plus du tout de la musique qui convenait au sabbat. J'avais alors décidé d'aborder ce problème lors de l'étude biblique qui était prévue pour le lendemain dans l'après-midi. Le matin suivant, alors qu'ils préparaient le petit déjeuner, ils ont à nouveau fait jouer de la musique qui ne convenait pas à un jour de sabbat, ce que je n'ai pas manqué de leur mentionner. Puis j'ai ajouté, « Vous savez, vous êtes venu ici pour vous éloigner de Pasadena et de l'agitation qui y règne, Hier soir, vous avez cependant raté une belle occasion de profiter de cette retraite. Vous auriez en effet pu sortir sur la terrasse, regarder la lune se lever sur le lac, admirer ces beaux arbres qui nous entourent, et relaxer en prêtant l'oreille au coassement des grenouilles. Vous avez ainsi manqué une occasion de vous rapprocher de la création de Dieu, et cela parce que vous avez préféré écouter cette soi-disant musique qui n'était ni agréable à entendre et encore moins indiquée pour un jour de sabbat. Personne ne s'est alors rapproché du tourne-disque pour le reste de la journée. N'empêche qu'il s'était tout de même privé d'une belle occasion d'apprécier la création de Dieu et de se rapprocher de lui. Nous devons nourrir l'Esprit de Dieu chaque jour. 2 Pierre chapitre 3 verset 18 nous enjoint de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont là des choses que nous devons faire. 2 Timothée 1, versets 6 et 7, nous recommande de stimuler l'Esprit de Dieu en nous, un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est aussi un esprit de discernement, grâce auquel nous pourrons discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Sans l'Esprit de Dieu, nous nous attirons des ennuis. Bon, il est temps maintenant de parler de ce deuxième esprit qui est à l'ordre du jour. Il y a en effet une autre dimension de la vie humaine dont on ne parle pas dans les institutions d'enseignement. On n'en parlera pas non plus dans la plupart des églises. Oui, il existe une autre dimension de la vie et c'est le monde des esprits. La Bible nous en informe. Nous n'en serons pas informés par le biais de la science, mais par la Bible, par les principes et les informations qu'elle contient. 2 Corinthiens 4, verset 4, dit que Satan est le dieu de ce monde. Oui, c'est Satan qui est en charge du monde actuel. Je me souviens de cette chanson que je chantais à l'église en grandissant. On y référait à ce monde comme étant le monde de mon père. Certes, Dieu a créé ce monde, mais c'est Satan qui en tire les ficelles présentement. Et c'est aussi pourquoi Éphésiens 2, verset 2, dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Tout comme l'Esprit de Dieu est source de puissance pour nous, Satan dispose aussi d'une certaine puissance. Il peut faire ouvrir et fermer des portes. Il peut capter l'attention des gens avec ses artifices. Si nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe, nous allons nous laisser égarer. Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28 mentionne que Lucifer était le premier rebelle, le rebelle originel. C'est lui qui a mené à la rébellion d'un tiers des anges. Vous lisez cela dans Apocalypse chapitre 12, verset 4. Oui, un tiers des anges furent séduits au point de se rebeller contre Dieu. C'est parce que Satan a son propre agenda. Il sait quel est le plan de Dieu et il fera tout en son pouvoir pour bouleverser ce plan et le contrecarrer. Il connaît aussi ceux que Dieu appelle. Et si les choses deviennent parfois difficiles pour vous, en particulier à l'approche du baptême, accrochez-vous et bouclez votre ceinture de sécurité. Vous allez vous en sortir, mais il tentera de vous décourager. Lorsque nous préparons ces conférences publiques que nous donnons parfois, j'encourage nos membres à prier pour que Dieu travaille dans le cœur et dans l'esprit de ceux qui reçoivent une invitation, afin qu'ils se présentent, car Satan travaillera aussi sur eux. Ils feront peut-être l'expérience d'un pneu crevé ou d'une panne d'essence en cours de route, qui sait. Ainsi, aujourd'hui, en me rendant à cette assemblée, j'ai été pris dans un bouchon de trafic et je commençais à m'inquiéter de ne pas pouvoir arriver à l'heure. Heureusement qu'après environ 5 minutes, ça s'est dégagé. Satan va essayer de vous faire trébucher par tous les moyens. Il ne se relâchera pas. Pensez à tous ces gens sur lesquels il a travaillé dans le passé. Ainsi, il a commencé avec Adam et Ève. Dieu leur avait dit certaines choses. Et voilà que Satan se présente disant « Oui, mais il ne vous a pas tout dit. Il y a plus que cela. Vous a-t-il dit que vous pouvez devenir comme Dieu si vous mangez du fruit de cet arbre ?» Satan a aussi travaillé sur Caïn et a fait en sorte que Caïn tue son frère. Il a également travaillé sur Job. Dieu avait donné à Satan un libre accès à Job. Et puis, il a travaillé sur Aaron. Pendant que Moïse était sur la montagne, les gens sont venus vers Aaron disant « Nous ne savons pas ce qui est advenu de Moïse. » Fais-nous un dieu. Hélas, au lieu qu'Aaron leur dise « Non, je ne ferai pas ça », il a acquiescé à leur demande et leur a fait un dieu, ajoutant même « Voici le dieu qui vous a fait sortir d'Égypte ». Satan a également travaillé sur Jéroboam. Jéroboam avait pris charge des dix tribus qui s'étaient séparées de Roboam pour aller s'établir au nord. Puis Jéroboam s'est mis à craindre que si le peuple allait à Jérusalem pour y célébrer la fête, il pourrait les perdre. Alors, il leur a fait deux idoles pour qu'ils puissent adorer sur place. 400 ans plus tard, Satan a essayé de s'en prendre à Jésus-Christ en le tentant dans le désert. Il a aussi tenté Pierre et Ananias et Saphira. Et il travaillera sur chacun de nous si nous lui en donnons l'occasion. Mais si nous restons proches de Dieu, cela n'arrivera pas. Ainsi, Satan a été le premier à se rebeller contre Dieu. Il a voulu faire échouer le plan de Dieu, et il va encore essayer de le faire de nos jours. Nous devons être conscients des dispositifs de Satan et de la manière dont il opère. Dans Jean 8, verset 44, il est qualifié de meurtrier et de père du mensonge. Apocalypse chapitre 12, verset 9, dit qu'il a séduit le monde entier. Il y a quelque chose de très intéressant ici. Voyons-le très rapidement. Vous le savez, notre monde occidental a été établi sur une sorte de fondation chrétienne, entre guillemets, ce qui ne l'empêche pas d'avoir été totalement séduit à propos de Noël, à propos des Pâques, de même qu'en ce qui concerne ce concept d'aller au ciel. Il y a tant d'idées fallacieuses et de pratiques saugrenues dans le monde actuel. J'en ai fait l'expérience récemment, lorsque je suis allé rendre visite à une réserve indienne en Arizona. On pourrait observer des pratiques similaires si on se rendait en Inde, où ils avaient l'habitude de se flageller et de soumettre leur corps à toutes sortes de tortures pour, soi-disant, s'attirer les bonnes grâces de leur Dieu. Au Moyen Âge, lors des épidémies de peste, les gens se flagellaient pour se punir, dans l'espérance que Dieu fasse alors disparaître la peste. Aujourd'hui, il existe des cultes qui se flagellent pour montrer à Dieu ce qu'ils sont prêts à endurer pour lui plaire. Vous allez aux Philippines, et les gens là-bas vont se faire clouer sur une croix pendant la période des Pâques, là encore, pour montrer à Dieu à quel point ils sont prêts à se punir. D'où cela vient-il? Eh bien, allez à 1 roi chapitre 18 et lisez l'histoire d'Élie lorsqu'il a confronté les prêtres de Baal. Alors que, depuis des heures, ceux-ci s'efforçaient en vain d'invoquer leur Dieu, Élie leur avait lancé « Peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est distrait. » Il s'était alors fait des incisions dans la chair, avec des épées et des lances, dans le but d'amadouer leur Dieu et de s'attirer ses faveurs. Mais rien ne s'est passé. Ces idées païennes viennent d'une source dont nous avons parlé, de cet autre esprit, de Satan. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui entretient toutes sortes d'idées à propos de Dieu. On le sait, Jéroboam avait fait des idoles. Mais aujourd'hui, c'est dans notre esprit que nous nous créons des idoles pour les adorer. Oui, nous n'adorons pas Dieu. Nous adorons des idées. Nous nous laissons influencer par des idées qui sont issues de l'esprit humain. Il y a quelque temps, je suis tombé sur un livre intitulé « Seven Men Who Rule the World from the Grave », « Sept hommes qui dirigent le monde depuis la tombe ». On y parle de Darwin, de Marx, de John Dewey et d'un type du nom de Wellhausen. À la fin des années 1850, ceux-ci nous ont soumis à certaines idées de leur crue. L'idée de Darwin était que nous n'avons pas besoin d'un créateur, car nous avons la sélection naturelle. Pour ce qui est de Marx, en gros, ses idées étaient que si nous pouvions nous débarrasser de la religion, notamment du christianisme, si nous pouvions nous débarrasser de la famille et de la propriété privée, nous aurions alors un monde bien meilleur. Marx était juif. Le père de Darwin voulait que son fils devienne un pasteur. Tous deux venaient donc de milieux religieux. ce qui ne les empêchait pas d'avoir des idées très différentes. John Dewey, lui, a grandi dans une famille protestante, mais il est arrivé à la conclusion que tout ce dont nous avons besoin, c'est la raison humaine. Pour lui, le surnaturel n'existe pas, le bien et le mal n'existent pas, et ce sont là des idées qui circulent toujours aujourd'hui. Wellhausen, quant à lui, était un théologien autrichien. Il s'était improvisé critique de la Bible. Il est en fait l'un des fondateurs ou des promoteurs de cela. Il avait été renvoyé, ou avait démissionné de son poste d'enseignant en théologie, et cela parce qu'on s'est rendu compte qu'il sapait la foi des futurs ministres en doutant ainsi de la Bible. Il ne croyait tout simplement pas que la Bible était vraie. Ce sont là les idées qui influencent notre société contemporaine, idées auxquelles nous sommes tous confrontés. Aucune de ces idées ne révèle le but de la vie humaine. Aucune de ces idées n'explique pourquoi nous sommes ici, ou pourquoi nous avons les problèmes que nous avons. La Bible nous dit que Satan est le dieu de ce monde, et qu'il influence ce monde. L'une des plus grandes tromperies aujourd'hui, c'est de croire que Satan n'existe pas. Nous avons tous entendu ces commentaires selon lesquels Dieu est mort. Dieu n'existe pas. Dieu est une illusion. La plupart des gens pensent aujourd'hui que Satan est un personnage de dessin animé qui n'apparaît qu'à l'époque d'Halloween. Mais détrompez-vous, il est bien réel. C'est un individu très réel. Nous devons le comprendre. Je suis également tombé sur un autre livre. Il est intitulé « The Death of Satan, How Americans Have Lost the Sense of Evil, La mort de Satan, comment les Américains ont perdu le sens du mal ». Eh bien, Satan n'est pas mort, mais, de nos jours, son influence est réduite. Personne ne prête attention à lui. Cependant, Satan va influencer le monde d'une manière très spectaculaire. Nous lisons cela dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je vous conseille de lire tout le chapitre, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il parle de l'avènement d'un homme du péché qui sera influencé par Satan le diable. Apocalypse, chapitre 13, quant à lui, parle de la bête et du faux prophète qui vont tromper le monde entier. Oui, le monde entier va être séduit par eux. Frères et sœurs, nous avons été appelés à sortir des ténèbres. Dieu a utilisé son Esprit Saint pour ouvrir nos esprits à la cause réelle et aux solutions des problèmes du monde. Je voudrais nous encourager tous à faire un effort pour sortir de ce monde et reconnaître ce monde pour ce qu'il est. Ne vous laissez pas influencer par tous les attraits de ce monde. Nous devons regarder au-delà du monde présent et comprendre que Christ est sur le point de revenir. Il aura besoin d'une équipe de personnes qui auront appris la vérité sur le but de la vie humaine, ainsi que la valeur des lois et des instructions de Dieu. Ces lois ne représentent pas un fardeau. Pour établir une relation avec Dieu, passez du temps à genoux, consacrez du temps à lire la Bible chaque jour, et apprenez à apprécier les lois de Dieu pour pouvoir partager ces lois avec tous ceux de votre entourage, de sorte que Dieu puisse vous utiliser comme un instrument à son service. Profitons de cette incroyable opportunité qui nous a été donnée de comprendre ce message à propos de ces deux esprits. Il ne s'agit pas d'un conte de fées, c'est très réel. Nous serons en mesure de faire face aux défis de cette vie lorsque nous comprendrons comment Dieu travaille et comment Satan travaille. Vous savez, j'ai dû expliquer cela à mon fils. J'ai dû lui expliquer d'où lui venait cette idée de frapper son frère dans l'estomac. Il ne le savait pas à ce moment-là. Nous parlons de ces choses pour montrer comment faire face à ces épreuves et à ces tribulations. Prenez le temps de lire Éphésiens chapitre 6, où il est question de revêtir toute l'armure de Dieu. Lisez Éphésiens chapitre 6 quand vous serez de retour chez vous. Oui, nous devons nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Cela nous protégera contre les influences de Satan. Ainsi, préparons-nous à montrer au monde pourquoi nous avons tant de problèmes et préparons-nous à aider Jésus-Christ à littéralement transformer ce monde. Vous savez, les activistes sociaux d'aujourd'hui veulent transformer le monde en un monde très différent de celui dans lequel nous vivons. Mais cela ne va pas marcher. Nous, cependant, nous allons avoir l'opportunité de vraiment transformer ce monde d'une manière durable. Si nous comprenons le message d'aujourd'hui à propos de ces deux esprits.